On va continuer ce matin l'étude de l'évangile de Luc. Donc on a, les deux dernières semaines, on a fait Luc 9 et on continue. On va lire à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui deux à deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. » Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez sur les places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles faits au milieu de vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie avec le sac et la cendre. C'est pourquoi lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » En se tournant vers les disciples, il leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Amen. Seigneur, ouvre ce texte à nos cœurs et à nos yeux, que tu puisses nous parler, aide-nous à correctement... Regardez ce passage, aide-moi à dire ce que tu veux nous dire et qu'il y ait quelque chose pour chacun d'entre nous, Seigneur. Aide-nous à nous attendre à toi ce matin. Amen. Verset 1, après cela. Est-ce que vous vous souvenez des passages précédents? Un petit peu. Vite fait. On a vu la transfiguration, on a vu les guérisons, on a vu des Samaritains qui refusaient de recevoir Jésus, on a vu quelques disciples qui venaient, quelques interactions de Jésus avec des personnes qui voulaient le suivre. On a vu aussi l'envoi des 12 avec une mission très similaire. Et ici, on a l'impression qu'il continue un peu à envoyer des gens devant lui, à envoyer des personnes pour préparer son chemin. On va voir qu'il parle on va parler du fait d'être ambassadeur. Et pour les 12, comme pour les 70, on avait parlé du fait que Jésus, c'était le chapitre 9 était un petit peu un changement dans son moment, dans sa vie de ministère, et qu'il il commençait vraiment à se focaliser sur Jérusalem, sur ce qu'il allait devoir faire à Jérusalem, et sur le fait que, d'une certaine manière, son temps de présence physique sur terre commençait à arriver à la fin, et on a presque l'impression qu'il veut se démultiplier, il veut essayer de couvrir le plus de terrain possible, il veut comme ça toucher plus de monde, plus de villes, qu'il y ait plus de gens qui entendent parler du royaume, qui entendent parler de lui. Et ici, donc, il envoie ses 70 autres, donc les 12 ne sont pas inclus. Géographiquement, on est aussi dans un autre lieu, on a l'impression que les 12, de ce qu'on sait des textes, c'était plutôt en Galilée. Ici, c'est plutôt en Judée, sur la route vers Jérusalem. Ça devait être une mission incroyable d'être la bouche, d'être le porte-parole de Jésus, d'avoir ses capacités, d'avoir cette autorité. On va regarder la joie des disciples quand ils reviennent, mais ça devait être vraiment incroyable. Et ces 70-là, ils sont restés anonymes. On sait pas, on n'a pas de nom, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas de détails. Sans doute qu'au ciel on rencontrera certains de ceux-là, mais c'était d'autres gens qui suivaient Jésus. On sait que Jésus, il n'y avait pas que les 12. Jésus, il se déplaçait, il y avait beaucoup de monde. C'était quelque chose de plus courant à l'époque dans la culture juive. Et donc là, il a d'autres gens qui sont présents. Et il leur dit, bon, ben, vous aussi, ils devaient être tout excités parce qu'il avait envoyé les 12, ils avaient entendu les histoires de ce que les 12 avaient fait, sans doute, avaient pu faire, les choses dont ils avaient fait l'expérience. Et maintenant, Jésus prend un groupe plus large, là, parmi les gens qui suivent Jésus. Et ils ont cette opportunité assez incroyable, ce moment singulier dans peut-être dans l'histoire du monde. Et c'est très intéressant, où ça, pour moi, ça sonne comme un avertissement quand on voit la fin du chapitre 9 et on voit ces quelques personnes qui ont une interaction avec Jésus et qui finalement ne le suivent pas pour une raison ou pour une autre, qui sont pas prêts au moment donné, de se dire que peut-être que ces personnes-là qu'on voit à la fin du chapitre 9, qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas disponibles, qui n'étaient pas attentifs au bon moment pour suivre Jésus, ils ont peut-être loupé l'occasion de faire partie de ces 70-là. On ne saura jamais, on sait. Mais le contraste, quand on lit d'un trait entre le chapitre 9 et 10, on se dit, ceux-là, ils ont peut-être d'une certaine manière loupé le coche. 70. Il y a, si on veut pinailler, il y a entre certains manuscrits entre 70 et il y a d'autres manuscrits où il y a marqué 72. La plupart des commentateurs s'arrêtent sur 70 parce que c'est un nombre qui est symbolique dans la Bible. C'était le nombre d'anciens qui aidaient Moïse dans le désert, dans Nombre 11, dans Exode 24, si vous voulez regarder plus tard. C'était le nombre de personnes qui étaient dans le Sanhédrin, et aussi dans Genèse 10, c'est un chiffre qui est considéré comme un symbole de toutes les nations de la terre. Donc on peut se dire qu'il y a plein de choses à voir là, à comprendre, que peut-être c'est une manière pour Jésus de dire, bon, ben, vous voyez le Sanhédrin où ils sont 70, c'est les sages, c'est ceux qui vous dominent. Ben, moi, j'en envoie 70 autres, des personnes simples, et eux, ils ont ma puissance et ils vont faire des choses plus grande que ce que font le Sanhédrin, peut-être d'une certaine manière pour avertir les Juifs et leur dire, voilà, il y a un passage de témoin qui se fait là, l'ancien qui n'était pas digne, qui n'a pas fait ce que Dieu voulait, va être mis de côté et il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est une possibilité. C'est peut-être une préfiguration de l'évangélisation du monde païen qui allait suivre après la Pentecôte et avec le reste de l'histoire de l'Église, de par cette symbolique avec toutes les nations de la terre. Juste en parenthèse, c'est dans Genèse 10, la liste des descendants de Noé, et donc c'est ce qui représente les. C'est pour ça qu'on dit que ça représente toutes les nations de la terre. On n'est pas sûr, mais on sait que Jésus fait souvent bien les choses. Là aussi, on pourra demander à Jésus le détail du pourquoi et du comment. Pour l'instant, on ne fait qu'émettre des hypothèses. Il les envoie deux à deux. Il vaut mieux être deux. L'homme, au début, Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Dans beaucoup de moments dans le Nouveau Testament, on voit l'exemple des disciples qui partent, les apôtres qui partent deux à deux. Et il y a des passages dans la Bible qui nous permettent aussi de savoir que c'est le cas. C'est ça nous semble logique. Enfin, on se dit bon, c'est oui, si on est deux, on peut s'aider, on peut. Mais je veux quand même appuyer sur ce point, et je vous dirai pourquoi. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, c'est un passage que vous entendez parfois pendant les mariages. Et lisons ensemble, deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à trois brins ne se rompt pas vite. Donc ce texte-là nous le dit simplement que deux, et avec des raisons très pratiques. On connaît, je pense pour la plupart, le proverbe 27, verset 17, « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. » Et on a aussi dans la loi juive et dans le Nouveau Testament, Paul qui souvent, dans des situations de difficulté, notamment avec le péché, avec le fait de se reprendre, où il y a besoin de témoignages, où il est question de choses difficiles, plusieurs fois cité un passage du Deutéronome, chapitre 19, verset 15, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, un forfait, un péché quelconque qu'on peut commettre. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Donc là aussi, il y a l'idée qu'à deux, il y a une certaine autorité dans la parole, ça donne du poids à ce qui est dit et ce qui est présenté. Et pourquoi est-ce que je voulais appuyer sur ce point? Parce que je pense qu'on est, on comprend ces choses, on les comprend intellectuellement, mais on a tendance à aimer être seul et être avec une autre personne. Le proverbe là, aiguiser le fer, c'est frotter l'un contre l'autre. C'est pas un truc gentil et doux, c'est un truc qui est pénible. Les autres, ça nous casse. Dieu se sert des autres pour nous briser, pour nous former, pour nous changer, pour nous taper dessus. Et donc on se dit ouais, c'est mieux d'être deux, ouais, c'est vrai. Mais dans votre travail par exemple, est-ce que vous aimez dans le domaine que je connais qui est l'informatique, ils ont un processus qu'ils appellent la programmation en paire où on se met à deux un bureau devant un seul ordi, et ensemble, il y en a un qui écrit et l'autre qui fait des commentaires, qui coach. Et l'idée, c'est qu'ils sont deux, donc ils peuvent s'attraper les erreurs, les problèmes. Mais il y a aussi la vulnérabilité et le fait que tu as quelqu'un qui est juste à côté en train de regarder ce que tu fais, qui voit si tu as rien compris, si tu as compris, si tu fais des choses ridicules ou pas. Et je pense que on est dans un monde qui est assez solitaire, un monde qui est assez centré sur chacun de nous seuls. Et je pense que on a du mal à travailler ensemble, à plusieurs, et à travailler comme ça avec une autre personne en étroite communion, je dirais. Ces gars qui voyageaient à deux là, c'était vraiment, c'était pas du toi t'as ta chambre d'hôtel, moi j'ai la mienne, on se voit demain, tranquille. Non, c'était difficile. Ils avaient vraiment besoin de compter l'un sur l'autre. Ils avaient besoin de travailler ensemble. Et je pense que Jésus, par ça, il y a plein de choses qui ont été apprises. Et ces 70 donc qui doivent aller deux à deux, doivent aller dans des endroits où Jésus doit passer. En toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Moi, ma première réaction, c'est que il y a plein de choses que je ne sais pas sur le ministère et la vie de Jésus. De se dire, toutes les villes et les villages qui ont pu couvrir 70 gars en... Je ne sais pas comment, on ne sait pas exactement le temps ici, mais en fait, on sait que quelques morceaux choisis. Les évangiles, c'est pas des choses complètes, c'est des aperçus, des choses qui représentent bien certains moments. On voit même qu'il y a certaines idées dans certains évangiles, certaines choses que Jésus dit qui sont dites à différents moments. Et je pense que Jésus, il répétait, il reprenait, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Là aussi, on pourra au ciel lui demander plus de renseignements, plus de regarder le film, le vrai film de Jésus. Et le fait que Jésus devait passer derrière, ça devait beaucoup motiver les 70. De se dire qu'il y avait le maître qui allait passer, qui allait voir, qui allait sentir ce que eux avaient fait, avaient d'une certaine manière allaient pouvoir voir leur travail. Ça devait les motiver, peut-être leur faire un peu peur, mais aussi les motiver, leur garder une vision correcte de la chose, de dire on va pas faire de bêtises parce que Jésus en plus il passe derrière là. Les gens, si on fait n'importe quoi, qu'on se dit de Jésus, Jésus, il va passer et nous, on sera responsables. En aparté, quand on se dit chrétien, à un moment ou à un autre, Jésus va passer. Jésus voit, il sait. Et si on représente mal Jésus, si on fait n'importe quoi en tant que chrétien, il va le savoir. Faisons-nous notre mieux pour Jésus, sachant qu'il voit et qu'il veut venir derrière. Ça donne aussi de l'espoir, parce qu'on se dit il y a des moments où on est insuffisant et où on n'a pas la réponse, on voit les disciples, il y avait certaines situations où ils savaient pas quoi faire, ils arrivaient pas, les gens étaient frustrés. On a vu avec certains, par exemple avec un démon, qu'ils arrivaient pas à faire sortir d'une personne. Et donc ça doit donner de l'espoir, de se dire que Jésus vient et qu'en cas de lui peut venir et s'occuper des problèmes. S'il y a des difficultés, il est là. Pour nous, de manière générale, on devrait tout le temps s'appuyer sur Jésus et lui amener les choses qui sont difficiles, lui amener les situations. La grande moisson. Verset 2. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Une grande moisson, c'est un sujet de réjouissance. Nous, la moisson, elle est à Carrefour, ou à Auchan, ou à Lidl. Dans le monde antique ou dans le monde de l'agriculture, c'est un sujet de réjouissance. C'est la vie, c'est le fait qu'on va passer une autre année avec de quoi survivre. C'est la fête de Thanksgiving aux États-Unis où après avoir survécu à un hiver rude, ils avaient leur récolte et ils se réjouissaient de ce que Dieu avait pourvu aux besoins. Une grande moisson, c'est une fête. Enfin, ça doit être une fête. Pour un agriculteur qui voit ses champs qui sont prêts à être moissonnés et qui se dit « j'ai pas les machines » ou « il y a du mauvais temps » ou « j'ai pas assez de monde pour travailler les champs », là c'est un peu c'est cruel, c'est horrible. Il se dit « ça va pourrir ». Le champ, là, les récoltes, elles vont servir à rien. Tout le travail de l'année, tout ce que j'ai fait, mis dans tout l'effort que j'ai mis dans ces récoltes ne va servir à rien. Et ça, en fait, c'est horrible. Donc, c'est un peu Jésus ici, là, il avait de la compassion et il y a une réjouissance et en même temps un désir d'avoir plus. D'avoir plus de gens et il leur dit mais il y a peu d'ouvriers. Et le fait qu'il y ait peu d'ouvriers, ça veut dire qu'il y a encore plus de travail pour les peu qui y sont. Et en même temps, quand on regarde le chapitre 9, ce qu'on a vu, les difficultés, la manière dont Jésus présentait le service, le fait de le suivre, on se dit oui, d'accord, mais c'est dur, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de gens, c'est pas quelque chose qui attire, c'est comme, si je vous dis après on va faire une fête et on va faire à manger et ça va être cool, on va être tous là. Et puis, quand il s'agit de nettoyer la cuisine et de faire la vaisselle, il y a toujours moins de monde. Et là, c'est des choses difficiles. Il dit pas que c'est une fête. La moisson, c'est un travail. C'est des ouvriers. C'est pas des spectateurs. C'est pas des. On se met pas dans des gradins à côté de la moisson et on dit allez. En buvant un coca et en mangeant des chips, quoi. Donc on se dit c'est normal qu'il y en ait si peu. Mais il nous donne le commandement de prier pour qu'il envoie plus, pour qu'il mette plus d'ouvriers dans sa moisson. La moisson, évidemment, pour nous, c'est un petit peu la moisson des âmes, c'est le fait d'annoncer l'évangile, d'annoncer le royaume de Dieu. Et nous aussi, on doit prier, on doit demander à Dieu d'envoyer plus d'ouvriers dans sa moisson. C'est un commandement, c'est simple, il nous dit de le faire. On doit le faire. Il y a plusieurs petites remarques par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il ne dit pas ? Il ne dit pas de prier pour de l'argent, il ne dit pas de prier pour du pain et des poissons, il ne dit pas de prier pour de la considération, de la renommée, de l'influence, des moyens, une rencontre avec chanceuse avec le maire ou le président qui va seconder le travail, des bâtiments, même des miracles ou des signes. Il dit de prier pour des hommes. Quand il y a des personnes qui répondent à l'appel de Dieu, Dieu pourvoit les choses dont on a besoin, les choses pratiques. Après, une autre remarque, c'est pour nous, pour moi, combien de fois est-ce que je prie pour des choses auxquelles moi, directement, je peux répondre et je peux déjà agir ? Combien de fois je vois quelqu'un qui a besoin de quelque chose, une situation qui a besoin de quelque chose, une personne qui a besoin d'entendre l'évangile, et combien de fois je dis, ah, Seigneur, envoie quelqu'un pour lui parler. Je suis tellement hypocrite des fois. On est le cœur de l'homme. Alors que je suis là. Et donc ces disciples, eux, sont en quelque sorte une réponse à leur propre prière. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, maintenant, vous y allez, quoi. Vous avez prié, maintenant, go. Et après leur avoir dit de prier, puis de dire, ok, maintenant, allez-y, il leur dit, comment aller ? Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est une indication sur le cœur, sur la manière, sur les intentions des disciples. Ils doivent pas avoir d'abus de leur capacité de manipulation, de recherche égoïste ou personnelle. Et ça reflète aussi le fait que c'est une mission dangereuse dans un territoire ennemi. Satan va s'y opposer. D'où le besoin de Jésus, de sa puissance, d'être appuyé sur lui pour avoir la force nécessaire. Quand on écoute et qu'on obéit à Dieu, on devient une cible pour l'ennemi. Si on fait rien, on est tranquille, hein, on sera pépère. Et Dieu veut pas que nous allions comme des agneaux ici, il veut pas que nous allions en mode peureux et hésitant. On sait que dans 2 Timothée, il est dit que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul nous dit de ne pas avoir honte à rendre à notre Seigneur. Du témoignage à rendre à notre Seigneur. Il nous encourage à souffrir pour l'Évangile dans 2 Timothée 1. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous envoie, qui pourvoit, qui nous donne ce dont nous avons besoin. Dans un des commentaires que je lisais en préparant ce message, il y en avait un qui disait, c'est encourageant quand même de se dire, les loups, il y en a pas beaucoup, ils sont en mode extinction. Les agneaux, c'est bon, il y en a plein, ça se reproduit vite, c'est tranquille. À la fin de la journée, ils seront plus nombreux. Peut-être pour le moment, ils font encore peur. Satan, même s'il sait que c'est fini, veut en entraîner le plus possible. Puis le verset 4, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. C'est des éléments liés à la culture juive de l'époque, à la manière de vivre, l'accueil des étrangers, l'hospitalité, les choses de cette époque-là. C'est des détails qui sont un petit peu difficiles à comprendre pour moi, en cherchant dans les différents commentaires, on voit différentes remarques sur la culture juive pour expliquer, et il n'y a pas vraiment de consensus total sur les différentes choses. Le fait de ne pas avoir de bourse, de sac, de sandales, c'était le fait de ne pas avoir de provisions et de simplement faire confiance à Dieu pour de pourvoir à leurs besoins. Le fait de ne saluer personne en chemin, je dois vous dire que je l'avais jamais remarqué, ça. Vous m'auriez dit que c'était dedans, je vous aurais dit ah bon. Et ça vient du fait qu'à l'époque, quand les gens se déplaçaient et voyaient des gens, il y avait des salutations très longues. On disait pas juste bonjour, il y avait une gestuelle, une petite rituelle, et il fallait demander après, les nouvelles de la famille, des cousins, ceci, cela, ça existe encore dans certaines cultures de nos jours. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder Élisée dans 2 Rois 4, 29. Élie lui dit aussi, t'arrêtes pas en chemin, tu dis bonjour à personne. Et donc là, l'idée, c'est pas d'être mal poli ou de calculer personne, mais c'est qu'ils avaient une mission, il y avait une urgence, il n'y avait pas de raison de s'attarder sur les coutumes et les choses qui les mettaient, qui les retardaient, disons. Ensuite, le verset 6, on peut continuer. « S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. » On va s'arrêter là. Ici, il y avait l'idée d'accepter l'hospitalité d'une personne qui vous accepte, d'une personne de bonne réputation dans la ville. Il n'était pas question de se dire le truand de la ville a dit qu'il avait une chambre, donc je vais aller rester chez lui. Les apparences et la réputation des gens qui doivent être des ambassadeurs de Dieu est importante. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait tirer. Celui que j'ai à l'esprit, c'est une situation qu'on a dans l'Église, je dirais, de manière cyclique. C'est l'idée de se dire que avec les jeunes hommes et les jeunes femmes, et le fait de pas avoir des jeunes hommes et des jeunes femmes qui, célibataires, habitent tous ensemble dans une maison ou quelque chose comme ça. Parce que pour les gens du monde, ils se disent, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas d'une certaine manière, pas d'importance accordée au mariage, à une certaine pureté. Et c'est des apparences, c'est des choses qui sont importantes, qui doivent être attachées à nous en tant qu'ambassadeurs de Jésus. On peut pas se dire, comment je me présente dans la vie de tous les jours a aucune influence. La forme n'a pas d'importance. Ça influe. Et donc il leur dit d'aller chez quelqu'un de bonne réputation, un homme de paix, d'accepter son hospitalité, d'accepter le peu ou le beaucoup qu'il était prêt à leur donner, et de pas aller se dire j'ai pas eu assez à manger ce soir, je vais aller voir la maison à côté, je vais aller mendier. C'était faire confiance à Dieu. Il y avait aussi une certaine, ils disent qu'il y avait une certaine tradition à l'époque dans les petits villages. Où les différentes maisons, quand il y avait des étrangers qui étaient accueillis, les maisons pour un peu à cause de la réputation, chacun voulait que les invités restent un peu dans chaque maison. Ah, moi aussi, je veux l'avoir un soir, je vais l'inviter, lui faire à manger, ça va être bien, ça sera mieux même. Jésus voulait qu'ils se concentrent, qu'ils trouvent une maison, qu'ils y restent, qu'ils acceptent le peu qu'on leur donnait, qu'ils bénissent, qu'il donne la paix sur cette maison. Et il leur dit aussi, car l'ouvrier mérite son salaire. Il leur dit ici, c'est pas de la charité, il s'agit pas d'être, s'il vous plaît, je peux avoir un peu à manger. D'être confiant, de se dire, ce que je reçois là, je le reçois pour une bonne raison, pour quelque chose que je leur apporte. Et il leur dit de guérir et d'annoncer le royaume de Dieu. Qu'il est là, sur le point d'arriver. On ne sait pas si c'était le fait que Jésus allait venir ou si c'est l'idée que le royaume de Dieu allait apparaître avec force après la mort et la résurrection de Jésus, mais ils avaient annoncé ça. Puis, ils s'attardent sur les villes qui ne les acceptent pas. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez sur ces places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles faits au milieu de vous l'avaient été à Tyre et à Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie avec le sac et la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Ce geste avec les chaussures à la poussière, c'était une manière d'appeler à la repentance, d'avertir. C'était une manière d'un peu un dernier vous m'avez rejeté, gare à vous, quoi. C'était attention, on vous aura prévenu. Il devait quand même leur dire, leur annoncer que le royaume de Dieu s'est approché. C'est dangereux de refuser d'accueillir un ambassadeur de Dieu, de refuser d'écouter. Dans l'Ancien Testament, il y avait des situations plus, peut-être plus physiquement sévères. Jésus ici cite trois villes qui avaient été détruites, Sodome, Tyre et Sidon, qui avaient été jugées par Dieu, qui étaient considérées dans la culture juive comme des exemples de villes horribles, qui avaient été condamnées par Dieu, qui avaient été détruites. Dans la culture juive, c'était vraiment le voilà quoi. Voilà ce qu'il faut pas faire si tu veux encore avoir une maison et quelques pierres quoi. C'est les pires. Et Jésus dit à trois villes de son époque, c'est vous êtes pires que ces villes que vous considérez comme les pires, parce que vous m'avez vu. Vous avez vu des miracles et des signes au milieu de vous. Il s'attarde même sur Capernaüm où il a passé peut-être le plus gros de son ministère en Galilée pour lui dire tu aurais pu être élevé au ciel, être l'endroit où j'ai passé le plus de temps, mais non. Et en leitmotiv, encore peut-être une fois, on voit que les signes ne suffisent pas à changer les cœurs. Et donc ces villes qui potentiellement rejettent les disciples, les 70, ils ne rejettent pas vraiment les 70, ils rejettent les ambassadeurs. Ils rejettent celui qui les a envoyés. Quand il y a politiquement un ambassadeur, la manière dont on traite un ambassadeur, c'est une réflexion de comment on traite le pays derrière. Dans le monde moderne, si on dit en ce moment, par exemple, un exemple, c'est l'Iran où on a des problèmes politiques et on va se dire l'Iran, ça suffit maintenant, ton ambassadeur, il peut plus rester chez nous. C'est pas l'ambassadeur en lui-même, le gars, lui, il a rien fait. C'est la relation qu'on a avec le pays, avec l'autorité qui est derrière. Ça me rappelle les mauvais vignerons qui se disent on va tuer les serviteurs du maître, la parabole de Jésus qui est dans Matthieu, Marc et Luc. Il y a une histoire dans 2 Samuel 10 où le roi des Ammonites, un nouveau roi, fait raser la barbe des messagers de David. C'est une histoire un peu cocasse, mais c'est... Et les gens rejettent Jésus et son message, pas le disciple ou les disciples eux-mêmes vraiment. Et c'est quelque chose qui est difficile, mais qui devrait être un encouragement pour nous. Jésus a dit, s'ils l'ont fait au maître, ils vont le faire au serviteur. Soyez pas surpris. Et c'est pas pour qu'on soit découragé, mais sans doute d'une certaine manière pour que ce soit plus léger. C'est pas personnel. Les gens ne nous rejettent pas. C'est pas qu'ils nous détestent, nous. On peut avoir une certaine liberté là-dedans. Je suis le premier à ne pas aimer quand les gens me rejettent ou quand je veux parler de Jésus et que les gens ne veulent rien savoir ou sont hostiles. Mais on peut se dire qu'on est, d'une certaine manière, on n'est pas le problème. Le problème, c'est entre eux et Jésus. Jésus, lui, était envoyé par Dieu le Père, on va regarder après, et de la même manière, il veut nous envoyer. Dans Jean 20, 21, il dit que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Paul en parle dans 2 Corinthiens 5, verset 18, en disant « tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation ». Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On doit être les ambassadeurs de Dieu, le représenter dans ce monde. J'espère que c'est une surprise pour personne. Regardons au verset 17. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ils ont la puissance, c'est l'extase. C'est la joie du service, ils voient des choses se passer, ils avancent, il y a cette excitation. Ils avaient même eu des bonus. Parce que Jésus, dans le texte, n'avait pas parlé du fait qu'ils auraient contrôle sur les démons. Il leur dit de guérir les gens et de prier, d'annoncer. Et eux, ils se disent, ouais, en plus, on a même pu, comme les 12. Yes! Et c'est une joie qui vient quand on obéit à Jésus. Quand on suit Jésus, quand on obéit, quand on fait ce qu'il nous demande, souvent il pourvoit et il donne au-delà même de ce qu'on attend. Dieu a un amour extravagant. Il veut donner au-delà de ce qu'on pense. On voit qu'il disait en ton nom. Ils étaient sages, ils savaient que Jésus allait passer derrière, ils ne prenaient pas le crédit pour eux-mêmes, la gloire. Le verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, est intéressant et énigmatique, on va dire. Peut-être que Jésus, d'une certaine manière, leur disait, ouais, vous avez tellement annoncé l'avancée du royaume de Dieu, Satan même, il se cassait la gueule tellement c'était bien. On a vraiment... Ou alors c'était peut-être en ressentiment de ce qui allait venir. Colossiens 2 nous dit qu'il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. L'idée des serpents et des scorpions, verset 19, c'est symbolique des forces du mal dans l'Ancien Testament. C'est cette idée qu'il y a une domination sur Satan et les puissances. On pourrait faire toute un détail sur Satan, sur les principautés, mais on va pas s'attarder là-dessus. Donc ils sont tous chauds. Et Jésus veut nuancer, il leur dit attention quand même. Il les empêche pas de se réjouir, il est content pour eux, il se réjouit avec eux, on va voir après, il a cette joie de ce qui se passe, de voir un peu les prémices de son travail sur terre, de ce qui allait venir. Mais il leur dit attention à cette joie parce qu'elle appelle la fierté. On a parlé de Béni-Hinn. On est toujours trop sensible aux miracles et aux dons, aux capacités, au charisme, à la manière dont les gens se présentent. On est toujours, en tant qu'homme, trop sensible à l'extérieur. Ici, c'est tellement simple de le voir quand on l'étudie lentement. Est-ce que vous croyez que les 12, à cause des signes et de tout ce qu'ils faisaient, est-ce qu'il n'y avait pas parmi les 12 une pomme pourrie? Judas. C'est pas parce qu'il y avait cette puissance, c'est pas parce qu'il y avait ces fruits à ce moment-là qu'à la fin de l'histoire, ces gens-là sont sauvés. Matthieu 7, verset 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Gare à nous. Quelqu'un de complètement illettré, de pauvre, d'infirme, peut avoir plus de valeur dans le royaume de Dieu, peut être plus proche de Jésus et de sa volonté que quelqu'un qui a des diplômes, qui a des capacités, qui a des... Attention. L'autre danger dans ces succès, c'est que ça ne se représente pas. Si notre joie est basée sur quelque chose qu'on a réussi à faire, qui dit qu'on va, surtout avec ces choses-là, qui dit qu'on va réussir à le refaire? Et à ce moment-là, on fait quoi? On passe notre vie à « Ah, c'était bien !» avec une certaine forme de tristesse. Non, Jésus, il veut leur présenter une joie supérieure. Il dit à la fin, c'est notre relation avec Dieu qui est importante. S'il nous accepte, le vrai miracle, c'est le salut d'une âme perdue. C'est ça la puissance de Dieu. C'est le fait que nos noms soient écrits, soient gravés dans un registre dont la Bible nous parle, qui s'appelle le livre de vie. Si vous voulez regarder, c'est dans Philippiens 4, 3, dans Apocalypse 20, versets 12 à 15, vous pouvez regarder un peu certains versets qui y font référence. C'est pas ce que nous avons fait, c'est pas ce que nous avons réussi à faire, mais ce que Dieu a fait qui doit nous donner la joie. Parce que nous, on est tellement insuffisants et on fait tellement de fautes et on est tellement mauvais. Toute joie qui se base sur ces choses-là n'est que temporaire, mais ce que Dieu a fait, le fait que Dieu a choisi de nous sauver, de ce que Jésus a fait à la croix, ça doit être ça notre joie. On peut avoir une assurance là-dessus. Et cette joie-là, elle peut unir les chrétiens aussi. Quand c'est ce que moi j'ai fait, c'est ma petite joie à moi. C'est tellement bon, ben moi j'ai... Oh ouais. Yes. Mais il n'y a pas de communion, il n'y a pas de partage. Alors on peut être content peut-être si ça nous affecte, si on est... Mais là, on peut tous avoir la même joie. On est tous ensemble dans cette joie. Et ce que Dieu a fait, cette assurance qu'on peut avoir, ça veut dire que les conséquences, c'est qu'à la fin, on sera transformé pour de bon. Au ciel, on aura atteint l'objectif de Dieu pour nous. Ça veut dire qu'on aura la gloire de Dieu, on va la partager, on va être co-héritier avec Christ. On doit avoir ça comme joie. C'est encore plus. Et c'est pour ça qu'on doit connaître Jésus. Ces versets dans Matthieu 7, ils font peur. Il va dire à beaucoup de gens, je vous ai jamais connu. Cherchons à connaître Jésus. L'évangile révélé aux enfants. Verset 21. Pour finir. En réfléchissant et en expliquant ces choses, même Jésus se réjouit. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et en se tournant vers les disciples, il leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Jésus se réjouit. C'est le seul moment dans les évangiles où c'est écrit. En réfléchissant, en expliquant ces choses aux disciples, il se réjouit et ça le pousse à louer Dieu le Père. Il regardait ses disciples et il se dit, Dieu soit loué parce que tu as retourné les choses du monde et parce que ces gens-là, ces gens simples qui t'obéissent, qui ne viennent pas à toi avec leur fierté mal placée, avec leur diplôme, leurs apparences, qui viennent à toi simplement en étant humbles, ceux-là tu veux les sauver, ceux-là tu veux les utiliser. Il se réjouit du plan du salut pour les hommes. Qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de... C'est pas si on a assez d'argent dans notre compte en banque, c'est pas si on a les capacités suffisantes. Non, c'est quelque chose pour tout le monde. Dieu veut que les hommes s'humilient devant lui. La fierté empêche l'accès auprès de Dieu et l'humilité, c'est un peu le passeport, c'est le... Et on le voit tant de fois dans le Nouveau Testament, dans son interaction avec les responsables religieux juifs. La sagesse du monde, elle corrompt, elle rend fier. Et malheureusement, ça rend l'évangile plus difficile à accepter. Prions pour la France, qui est un peuple fier. Prions pour qu'elle soit humiliée. C'est contre nature. On regarde les nouvelles et on se dit mais oh, c'est horrible, tout va mal. En fait, on pourrait se réjouir et se dire Dieu, peut-être que tu es en train d'humilier le peuple français pour qu'il puisse t'accepter. On doit connaître Jésus, pas avoir plein de connaissances à propos de lui. Ça ne veut pas dire que Jésus veut qu'on soit ignorant, ça ne veut pas dire qu'il nous dit « bon, ben, c'est bon, allez-y, n'apprenez rien, et n'ayez aucune connaissance ». Non, il ne veut pas ça, mais il veut que notre amour pour lui soit plus importante que la connaissance et que notre connaissance nous permette de plus et de mieux aimer Jésus. On va lire deux passages pour terminer, puis on aura fini pour ce matin. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17, « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, » et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juif que grec, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Verset 22. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus est notre manière de connaître Dieu le Père. Jésus est notre regard, c'est celui qui nous présente Dieu. Hébreux 1 nous dit « Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Si vous vous dites « Comment est Dieu ?» On a la réponse, comme Jésus. Et il finit en leur disant « Soyez heureux les disciples, vous vous en rendez peut-être pas compte aujourd'hui, mais vous voyez quelque chose que les prophètes et les hommes de tout l'Ancien Testament espéraient voir et qu'ils n'ont pas vu. » Jésus, c'est la... Si on croit vraiment en Jésus, en l'histoire, en un monde tel que la Bible nous le présente, avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, cette vision-là du monde met Jésus en tant qu'apogée de toute l'histoire, de tout. C'est le point le plus haut, c'est l'aboutissement. C'est la perfection de l'homme et la plénitude de Dieu en un. Et Jésus est en train d'attirer leur attention là-dessus et de leur dire « Vous êtes devant quelque chose de fou, quoi. » Et pour finir, je voulais lire le début de l'évangile de Jean, parce que ce verset 22 fait vraiment penser à Jean. Si on regarde au verset 1, on va lire pour terminer. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme, envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Donc Jésus nous a fait connaître Dieu le Père, doit nous faire connaître Dieu le Père. Et Jésus après il dit, et maintenant c'est vous les ambassadeurs, c'est vous qui devez me faire connaître. Il y a cette moisson, il y a plein de gens qui doivent entendre ces choses, qui se demandent comment est Dieu. Soyons ses ambassadeurs, représentons le bien. Et prions, obéissons à prier. Et quand nous avons la possibilité de répondre à ce besoin et aller dans cette moisson, répondons aussi. Prions. Jésus, merci de ce que tu nous as fait cette grâce, ce que tu nous as sauvés. Tu es mort pour nous, tu es ressuscité et tu... Tu nous fais grâce, Seigneur, à tous les jours, tu nous pardonnes, tu intercèdes auprès du Père, tu investis en nous, tu veux nous nous élever, nous faire grandir. Tu veux faire de nous des co-héritiers, Seigneur, de la gloire de ton Père. Seigneur, c'est des choses qu'on comprend pas vraiment. Seigneur, aide-nous à les comprendre, aide-nous à nous réjouir, à méditer ces choses, à les laisser nous imbiber, être partout dans nos vies, dans la manière dont nous regardons les choses, Seigneur, le monde autour de nous, les gens autour de nous. Jésus, que tu puisses récupérer la gloire, Seigneur, que tout soit en ton nom. Jésus, merci pour ce temps, merci pour ta grâce envers nous, merci pour la liberté que nous avons. Aide-nous à profiter de cette liberté pour être tes ambassadeurs, Seigneur. Sois glorifié ce matin, en ton nom nous prions, Amen.